Nous sommes maintenant tous les cas en 1954 avec Léo Ferré, Claude Fléautert, toujours notre invité pour son livre Léo, paru chez Robert Laffont. Donc 1954, une année importante pour Léo Ferré, il a 38 ans et en mai, Cocatrix va lui donner un premier passage à l'Olympia. Il en sera la tête d'affiche l'année d'après, donc année importante pour Léo.
Oui, il faut dire que Léo s'est fait un nom comme auteur-compositeur à cette époque-là. Il a 38 ans et grâce à Catherine Sauvage, grâce à Jules Rico, il y a un certain nombre de chansons qui sont passées et il est devenu connu comme auteur-compositeur puisqu'il y a eu Paris Canaille, puisqu'il y a eu La Vie d'artiste, parce qu'il y a eu l'île Saint-Louis, parce qu'il y a eu Joli Môme. Et donc, impressionné par ce nouveau auteur-compositeur qui écrit succès sur succès, Bruno Cocatrix, qui était toujours à l'affût et qui était le directeur de l'Olympia, engage Léo Ferré en première partie de Joséphine Baker à l'Olympia en mai 64, en mai 54. Hein. Et c'est un succès, mais c'est un succès. Il faut savoir que il chante trois chansons, donc c'est un succès, mais on n'a pas le temps de voir les imperfections, quoi, de la chose. Mm-hmm. Hein.
La même année, Régnier de Monaco va venir le voir à l'Arlequin, cette fois-ci, et même chez lui. Et Ferré, ça, on sera toujours très fier. Hein. De plus, il va lui permettre, Régnier de Monaco, de réaliser un grand rêve, le grand rêve de Ferré, créer la chanson du mal-aimé à l'Opéra de Monte-Carlo. Ça devait être un grand moment pour Ferré.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'à cette époque-là, Léo était en seconde noce marié à Madeleine. C'est Madeleine qui depuis 3 ans, 4 ans, est devenue son Pygmalion, quoi, et qui le façonne complètement. Quoi.
Une femme avec un grand tempérament.
Une femme à un grand tempérament qui le façonne complètement. Et comme elle voit qu'il y a déjà Léo s'est cassé la figure avec un autre opéra. Et donc là, elle essaye vainement de trouver un lien pour faire jouer la chanson du mal-aimé, qui est un orateur lyrique sur le poème d'Apollinaire. Et brusquement, elle a une idée. Elle se souvient que Barthélémy Rosso, qui est un guitariste de jazz et qui est un des amis de Léo et de Madeleine, et ben ce Barthélémy Rosso, guitariste de jazz, est un monégasque qui, adolescent, sur le célèbre rocher, faisait partie d'un groupe où la batterie était tenue par le prince Régnier, le prince souverain. Alors, par l'intermédiaire de ce Rosso-là, elle réussit, lors d'un séjour du prince souverain à Paris, elle réussit à faire venir le prince souverain à l'Arlequin, qui était un cabaret où chantait Léo à cette époque-là. Et le prince est régné séduit par Léo, et après cette prestation dans le cabaret, Madeleine invite le prince souverain dans l'appartement du boulevard Pershing, qui était pas très loin du palais des congrès Porte-Maillot. C'est un boulevard cet immeuble a disparu. Et pour l'occasion, Madeleine a décoré l'appartement de fleurs aux couleurs rouges et blancs de Monaco. Et Léo, qui va tirer énormément de fierté de cette visite, va être heureux de recevoir une invitation du prince souverain pour diriger l'orchestre de l'Opéra de Monaco à l'Opéra de Monaco, et de diriger la chanson du mal-aimé au Palais Garnier.
Dans les années 50, et bien tout commence à aller mieux quand même pour Léo. Il écrit des poèmes, et il devient connu, mais pas populaire. Hein, il reste encore marginal. Et ensuite, Ferré rencontre quelqu'un d'important aussi, c'est Aragon. Et c'est Catherine Sauvage qui va les mettre en contact l'un et l'autre. Et Ferré va faire un album sur les poèmes d'Aragon.
Oui, mais ça va beaucoup mieux, parce que dans les années 50, il y a eu, encore une fois, Catherine Sauvage, Julien Rico et d'autres qui ont mis en succès les chansons de Léo, comme L'île Saint-Louis, comme Paris Canaille, comme Joli Môme, etc. Et que donc, Léo, s'il n'est pas encore une vedette au sens où il remplit les salles, Et là, je vous rappelle que la première fois où il fera la tête d'affiche Olympia en 1955, il va se casser la figure, comme on dit, parce qu'il va apparaître timide derrière un piano, avec ses lunettes de myope, les cheveux longs, mais à cette époque-là, les cheveux longs, ça paraissait curieux aux gens, c'était incongru, c'était comme un martien, et sans mouvement, sans rien, et ça va être un désastre. D'autant plus qu'il a son de chansons, certaines touchant la religion, Dieu, qui vont faire fuir les gens, et on verra au cours des séances d'Olympia, les gens partir en plein spectacle. Et ça sera un désastre, et Léo va se réfugier à la campagne pour se protéger un peu, quoi. Hors de Paris, en tout cas. Et donc, c'est grâce à une de ses interprètes qu'il a fait connaître, Catherine Sauvage, qui rencontre Aragon. Et évidemment, quand deux poètes se rencontrent, et quand deux poètes de ce calibre-là se rencontrent, parce que Léo, c'est pas simplement un poète de la chanson, c'est un poète tout court. Si on regarde les œuvres de Léo, quand même, Léo Ferré a enregistré 50 CD. Vous vous rendez compte, 50 CD, alors que tout l'œuvre de Traîné se résume à une douzaine de CD, tout l'œuvre de Gainsbourg, une dizaine, Brel, Brassens, pareil, une cinquantaine de CD, et une demi-douzaine de bouquins, plus des préfaces. C'est un poète tout court, Léo. Il y a un poète de la chanson et un poète tout court, à l'égal de Rimbaud, de Verlaine, d'Apollinaire et d'Aragon, donc, qu'il a chanté, qu'il va chanter. Et Léo dit d'Aragon que la nature même de son langage est faite par la mise en métier des sons, ce qui est formidable de dire ça. Il va chanter d'Aragon en Corrèze, la fiche rouge, l'étrangère, je chante pour passer le temps. Et d'Aragon, il va chanter quelque chose de magnifique qui va rester longtemps et qui reste encore, qui est ainsi que les hommes vivent. Et l'album est une réussite et tout va faire connaître le poète en dehors du monde intellectuel. Bon, bien avant que Jean Ferrat ait chanté Aragon lui-même.
Moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus.
Est-ce ainsi que les hommes vivent, Léo Ferré? On retrouvera la vie de Léo Ferré et Claude Flautaire la semaine prochaine dans le dernier numéro de Ritournelle.